Alors, j'aimerais bien que tu me parles de ta passion pour le deltaplane, un peu comment ça t'est venu et puis comment tu la vis aujourd'hui.
Ça m'est venu par le fait que j'ai toujours rêvé de voler. Toujours rêvé de voler depuis que je suis tout petit. Je me rappelle quand j'étais en colonie de vacances, quand j'avais 6 ans, 7 ans, je mentais à mes copains, je leur disais que j'avais inventé un avion en balsa avec une hélice qui tournait grâce à un gros élastique que je remontais manuellement. Et qu'une fois l'élastique enfin remonté, je réussissais à faire des petits vols avec mon avion en balsa. Donc là, j'avais 6 ans. Et puis, dans la suite de ça, je fabriquais des parachutes. À 7-8 ans, je montais tout en haut du Grand Poirier. Je me jetais d'en haut du Poirier avec un parachute que j'avais fabriqué en toile et qui, heureusement, m'a sauvé la vie. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est que je me suis raccroché par mon short, par ma ceinture à la branche. Mais sinon, j'aurais pu me tuer. Il serait jamais ouvert, quoi. Enfin, bon, j'ai toujours rêvé de voler. J'ai fabriqué très très tôt des, enfin, bon, adolescent, quoi, des téléphériques depuis des grands arbres. Et je me jetais dans le vide, enfin accroché à la roulette, après une roulette. Et donc j'en ai fait des de plus en plus grands. Et même avec un copain, une fois, on en a fait un qui faisait plus de 2, 3 ou 300 mètres, qui partait de très haut. Enfin bon, c'était très intéressant. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à me lancer dans le vide. Et même dans mes rêves, je rêvais souvent que je volais. Donc j'ai toujours eu envie de voler, quoi. Enfin, je voulais être pilote. Bon, d'avion, mais malheureusement j'avais pas une bonne vue. Donc j'ai pas pu, et puis j'étais pas bon en maths à l'école. Bon, j'ai abandonné ce projet d'être pilote, de jouer être pilote d'avion de ligne, mais enfin bon. Voilà. Donc ça m'est venu, c'est un désir que j'ai toujours eu. Alors, bon, c'est vrai qu'on avait inventé aussi un grand cerf-volant. Enfin, j'avais construit plusieurs fois des grands cerfs-volants de 10 mètres d'envergure et je sautais d'en haut des dunes et le cerf-volant me freinait, quoi. J'arrivais à faire des pas de géant, enfin, je m'accrochais avec une charrette, j'arrivais à faire des sauts ou à me laisser tirer dans la mer pendant des kilomètres. Enfin, bon, là, c'est pas du vol, mais enfin, c'était déjà un objet volant quand même qui me tirait, quoi. Donc les objets volants m'ont toujours fasciné. Ce qui fait qu'à l'âge de... Quel âge j'ai commencé? 85. Donc je pense qu'à l'âge de 35 ans, j'ai décidé de faire une formation, enfin, ou 33 ans, formation de deltaplane. Je me suis inscrit dans une école. Et j'ai appris, j'ai fait des formations, des stages, ça a duré 5 ans, enfin, un stage par an pendant 5 ans, avec des hauts et des bas, hein, parce que je me suis cassé le bras, enfin bon. J'ai eu des pépins, mais enfin j'ai toujours persévéré, j'ai toujours persévéré, je me suis vraiment. Et c'est vrai que les premiers moments dans les stages, même les petits sauts de puce et tout ça, procuraient énormément, énormément de plaisir. De courir avec le delta, de faire des petits sauts, hop, de se reposer, remonter, recommencer. Et je sentais bien que ça correspondait, bon, vraiment à quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire, quoi. Et les accidents, l'accident que j'ai eu m'a pas dissuadé, quoi. Et donc j'ai passé un brevet, bon, j'ai acheté un appareil, et puis je me suis inscrit après dans des formations de grands vols, de vols de longue distance. Et puis parallèlement, je volais par moi-même. Voilà. Donc, ça, c'est pour comment ça m'est venu. Hein, ça. Je crois que j'ai toujours rêvé de voler. Ça, c'est l'accomplissement d'un désir que j'ai toujours eu. Alors après, ben, j'ai pas été déçu, effectivement, parce qu'une fois qu'on est en l'air, c'est beau, déjà, c'est très calme, c'est très silencieux. Et puis, j'ai découvert qu'on ne faisait pas que tomber et descendre. Puisque j'ai appris qu'on pouvait monter. Alors ça, c'était le top quand j'ai compris ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'appareil descend toujours. Hein. C'est comme quand on lance un avion à papier. Bon, ben, un Delta, c'est pareil. Hein. Il descend, il peut faire, comme il n'a pas de moteur, il ne peut pas monter. Mais s'il rencontre un courant chaud ascendant, à ce moment-là, ben, le courant le monte, alors que lui continue à descendre. Mais enfin, comme le courant monte plus vite, finalement, par rapport au sol, eh ben, il monte. Hein. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais enfin, si on tombe de 2 mètres secondes et qu'on tombe dans un courant ascendant de 3 mètres secondes, eh ben, on monte d'un mètre seconde. Il n'y a rien à faire par rapport au sol, on gagne un mètre seconde. Et ça, si on le fait pendant 10 minutes, eh ben, ça fait 60 mètres minutes. Pendant 10 minutes, on gagne 600 mètres en 10 minutes. Donc on peut monter très haut, on peut monter. Moi, je me suis vu avoir des ascendances qui m'ont emmené à les plus belles 4 800 mètres. Donc c'est exceptionnel, c'est la hauteur du Mont Blanc pratiquement. Hein. Bon, enfin ça c'est rare. Enfin la plupart du temps, tu peux prendre 2000, tu peux monter à 2 dans les Vosges, tu décolles à 600 mètres. En temps normal, tu peux monter à 2 500 mètres, hein, 3 000 mètres. Donc tu vois, déjà dans les Vosges, quand tu es à 3 000 mètres, hein, bon, les plus hauts sommets sont à 1 100 mètres. Donc tu vois, un paysage déjà magnifique, c'est magnifique. Hein, c'est même difficile à exprimer, quoi, tellement c'est majestueux. Hein. Parce que plus tu montes, en fait, plus l'horizon, en fait, descend. C'est très curieux. T'as pas l'impression de monter, tu as l'impression que l'horizon descend. Et en fait, que tu vois de plus en plus loin. C'est très impressionnant. On peut voir extrêmement loin, par beau temps. Et alors, on peut voler, on peut se balader. Alors au début, on s'aventure pas loin, on reste un peu pas loin de l'atterrissage, et puis peu à peu, on prend confiance et on s'en va. Quitte à ne pas revenir, il faudra se poser ailleurs dans un champ. Et bon, c'est fabuleux, quoi. Bon, il y a le décollage, et puis c'est toute l'ambiance. Si tu veux, dès là, le matin, tu t'en vas, tu sais que tu regardes le ciel, tu vois le vent, tu choisis où tu vas aller, en fonction de ça, tu choisis la montagne. Bon, tu montes ton delta, tu attends le bon moment, tu te prépares, tu cours pour bien décoller correctement, tu essayes d'attraper un thermique, et si ça marche, te voilà au nuage, tu montes jusqu'au nuage, et après, tu peux rester des heures en l'air, tu peux voler, ça m'arrive de voler avec des planeurs, ça m'arrive de voler avec des oiseaux, des aigles, des vautours, des buses, qui tournent avec toi dans le même thermique et qui te regardent tout à fait pacifiquement. J'ai vu des papillons à 3 500 mètres, c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Il paraît qu'il y a certains papillons qui traversent l'Atlantique grâce à des ascendances comme ça. C'est très curieux ce qu'on peut rencontrer en altitude. Hein, des papillons, des oiseaux, du pollen. Des fois, ça sent l'herbe séchée à 3 500 mètres, ça sent le sapin, l'épicéa. C'est très frappant, c'est très curieux, ça sent le blé. Enfin, autrement dit, toutes les odeurs remontent depuis le sol. Et monte dans l'air chaud et tu les retrouves. Toi, tu es à des milliers de mètres au-dessus et tu retrouves tout ça. Donc, si tu veux, au fond, j'ai pas été déçu par rapport à mon rêve. Finalement, la réalité, bon, c'est jamais si bien qu'un rêve, hein, mais enfin, parce que en fait, il faut quand même, c'est quand même angoissant. Hein, dans les rêves, t'es pas angoissé, mais là, enfin, il faut pas se tromper, il faut surtout bien atterrir. Donc, on pense déjà à l'atterrissage alors qu'on est encore en l'air. Et c'est vrai que l'atterrissage est une manœuvre un peu délicate. À chaque fois que j'ai eu des pépins, c'était en ratant mon atterrissage, parce que le Delta est l'aéronef le plus difficile à poser. Au décollage, ça pose aucun problème si on s'y prend bien. Au décollage, en plus, on décide du moment où on va décoller. Tu peux toujours dire, non, ben, je décolle pas. Tu peux toujours rester assis, dire, ben, j'attends, le vent n'est pas bon. C'est trop fort, c'est trop travers, c'est pas bien, je repousse mon décollage. Mais l'atterrissage, tu peux plus. T'as pas un petit moteur tu rallumes pas un petit moteur pour dire, bon, ça me plaît pas, là, je redécolle, non, je remonte, non. Quand c'est fini, c'est fini. T'as plus de thermique, c'est terminé. Ton delta, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Bon, Tu peux attraper un thermique. Hein. Je me suis vu dans les Vosges attraper un thermique à 50 mètres sol. Hein. J'étais déjà prêt à atterrir. J'ai réussi à remonter à 3000 mètres. Mais ça, c'est exceptionnel. La plupart du temps, quand tu es à 50 mètres sol, c'est fini. Ton vol est fini. Tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est te poser et réussir ton atterrissage. Bon, donc c'est quand même assez stressant parce que c'est le delta, c'est l'aéronef le plus difficile à poser. C'est plus difficile à poser un delta qu'un Boeing ou qu'un Rafale ou que n'importe quel avion. Hein, parce que tu es obligé de te mettre strictement face au vent. Tu ne peux pas être devant travers. Il faut, alors qu'un aéronef, un appareil, un avion, tu peux te permettre de te poser avec vent travers. Hein, y a pas de problème. Puis si ça ne te plaît pas, au dernier moment, tu peux remettre les gaz et tu ne te poses pas, tu revoles. Quoi. Est-ce que là, c'est pas le cas? Donc, moi, j'ai fait du parapente, c'est beaucoup plus facile, hein, quand même. Mais enfin, c'est plus facile et plus dangereux en même temps, parce que c'est tellement facile qu'on fait moins attention. Et puis, ça se ferme, un parapente. Est-ce qu'un delta, ça peut pas se fermer? Parce que c'est pas mou, hein, c'est quand même comme un parapluie, quoi. C'est assez tendu. Hein. Parce qu'un parapente, c'est gonflé un peu comme un parachute, quoi. Enfin, bon, ça peut se dégonfler, hein. Il suffit que ça se mette en torche et puis voilà, tu peux te tuer. Enfin, bon, les deux sont très bien. Moi, si j'avais les moyens, je ferais les deux. J'achèterais un parapente en plus, parce que les deux sont très... Si j'avais les moyens, j'aurais aussi une montgolfière. Hein. Tu vois, là, il y a vraiment des problèmes financiers dans cette affaire-là. Mais une montgolfière, ça me fait rêver aussi, parce que c'est très paisible... C'est très contemplatif. On peut voler assez bas. On peut voir les animaux dans la forêt. Enfin bon, c'est très très intéressant la montgolfière. Malheureusement, ça vaut 200 000 francs. Bon. Ou alors, il faut la faire soi-même, mais ça dure longtemps. Mais c'est pas dur à faire. Mais c'est long. Donc peut-être qu'un jour, je me mettrai à ça. Mais enfin bon, pour l'instant, c'est le delta. Voilà, je ne sais pas s'il y a des précisions, des questions.
Et donc... Tu voles souvent dans l'année avec des gens, avec qui?
Disons, je vole souvent seul, parce que comme j'ai un métier qui ne me permet pas toujours de voler le dimanche, je suis assez souvent pris. Je vole quand j'ai un petit trou dans mon emploi du temps, et c'est souvent dans la semaine. Enfin, c'est vrai qu'en ce moment, je vole pas beaucoup, parce que là, des examens à passer, mais autrement ça m'arrive souvent de partir une après-midi dans la semaine si je vois que le temps est bon, que j'ai pas quelque chose de prévu professionnellement, je vole seul. Bon, ça demande une certaine philosophie, hein. Il faut quand même être prêt à remonter à pied déjà, parce que personne, tu pars avec ta voiture, tu laisses ta voiture en haut de la montagne, hop, tu décolles, personne ne remontera te remontera, hein. Si tu es seul, il faut remonter à pied. Enfin, bon, moi j'aime bien, ça fait une promenade. Ou des fois je laisse un vélo en bas, VTT, caché dans un champ. Comme ça, après je remonte en VTT, je vais chercher ma voiture en haut. Il faut aussi être sûr de soi pour décoller seul. Parce que, bon, si tu te craches au décollage, personne ne te voit, tu peux rester là. C'est dangereux. Il faut être sûr de soi pour atterrir seul aussi. Donc il y a quand même, cette sécurité, je l'ai. Parce que j'ai un vieil appareil, enfin, il n'est pas vieux, mais c'est un modèle ancien, qui est récent, qui est de construction récente, mais un modèle assez facile, qui permet de décoller seul, d'atterrir facilement. Enfin, là, je viens d'en racheter un deuxième qui est plus compétition, mais enfin, je ne vole pas avec, hein, j'ai me fait un peu peur pour l'instant. Autrement, c'est vrai qu'en été, pendant les vacances, ça nous arrive de partir à deux ou trois, c'est plus facile. Parce qu'à ce moment-là, on s'organise, on laisse une voiture en bas, on monte après avec la voiture tous ensemble, et puis après, lorsqu'on se pose, la voiture qui est en bas nous permet de remonter chercher la voiture qui est en haut. Donc c'est quand même plus facile. Et au niveau de la sécurité, c'est vrai qu'il vaut toujours mieux être deux ou trois, même si tout le monde a décollé, tu décolles le dernier, mais enfin, tu as les copains au-dessus qui regardent ton décollage. Si vraiment ça n'allait pas, ils pourraient toujours aller vite se poser pour prévenir les secours. Donc c'est quand même plus sûr, et puis il y a une bonne ambiance quand même, c'est sûr que... Enfin, personnellement, moi, ça, la solitude ne me dérange pas. Hein. Je pense que le delta, c'est... Bon, c'est... Ça peut être quelque chose qu'on ne partage pas, quoi. C'est peut être quelque chose qu'on vit seul. C'est très contemplatif, il n'y a absolument pas besoin de quelqu'un. Mais d'un autre côté, quand on est plusieurs, c'est sympa aussi parce qu'on se parle en radio. Ah bah tiens, viens par là, j'ai quelque chose de sympa. Oui, bah tiens, je pars par là, viens, bah suis-moi. Enfin bon, il y a aussi toute une relation qui est sympa parce qu'on a une radio, donc on peut communiquer, etc. Bon, à cette heure-ci, j'ai pas de préférence, hein. Les deux me conviennent. Bon, là, c'est vrai que ma femme n'est pas partisane de ça. Elle n'apprécie pas ce sport, elle personnellement, ça ne la dérange pas que j'en fasse, mais enfin, c'est vrai que je ne suis pas tellement disponible pour elle quand j'en fais, mais enfin, je crois qu'elle accepte quand même, hein. Donc j'essaye de lui consacrer quand même du temps pour aller se promener, marcher, faire du vélo avec elle. Bon, c'est nécessaire, hein, sinon ça serait un sport purement égoïste, quoi. Enfin, finalement, tu penses qu'à toi dans ce sport. Hein. Si tu fais pas un effort pour penser aux autres, tu sais, c'est bon. Enfin, c'est agréable aussi de pouvoir avoir quelque chose qui te plaît, même si c'est égoïste. Hein. Je manque de temps pour en faire, ça c'est sûr. Je manque de temps pour en faire. Je n'en fais jamais assez. On n'en fait jamais assez. Jamais assez. On vole jamais assez. Quand je fais dans les grandes années, si je fais 30 vols dans l'année, j'ai toujours l'impression que j'ai pas fait assez de vols. Quoique j'aimerais en faire encore 30, encore 40, encore 100, que je voudrais voler tous les jours. Ça ne me dérangerait pas de passer ma vie à voler. Aucun problème. De plus travailler, d'être en retraite. Remarque, ce n'est pas du tout ce que j'ai choisi comme voie. Hein, ce que j'ai choisi, au contraire, une troisième voie professionnelle qui va encore me faire travailler au moins 10-15 ans. Alors que je pourrais être en retraite pratiquement cette année. Hein. Donc il ne faut pas non plus mettre le delta plus important qu'il n'est dans ma vie, hein, puisque je ne l'ai pas choisi. Mais ce que je peux dire, c'est que même quand je vole beaucoup, c'est insatiable, c'est inextinguible, je n'arrive jamais à dire, ah ben j'en ai marre de voler, jamais, sauf la fatigue. Fatigue, bon, ça m'est arrivé dans les Alpes de faire 10 jours de suite un vol de 3 ou 4 heures, pas 10 fois de suite, hein, un vol de 3 ou 4 heures avec des altitudes à 2 ou 3 000 ou 4 000 mètres à chaque fois. J'ai vu le cas. Bon, ben, je suis obligé de me reposer parce que je tombe par terre, je ne peux plus marcher, c'est très fatigant, ce changement d'altitude, c'est très fatigant parce qu'il y a moins d'oxygène en altitude. Hein, donc, c'est une raréfaction de l'oxygène, tu fais du yo-yo, tu montes, tu descends, puis il y a cette concentration, enfin c'est quand même fatigant, nerveusement aussi. Et ben, quand je ne peux pas aller voler, je suis content quand il pleut, quoi, parce que je suis content qu'il pleuve. S'il fait beau, que les autres vont voler, et que moi je ne peux pas y aller, je suis pas content. Même si je suis fatigué, épuisé, il faut absolument pas que j'y aille, je vomirai tellement je suis fatigué, donc je pourrais avoir un accident, mais je ne suis pas content. Et s'il pleut, je suis content que les autres ne volent pas. Je suis content parce que moi je suis fatigué, mais je suis très égoïste. C'est très méchant de dire ça, mais il pleut, bah, je suis content. Comme ça, personne ne volera. C'est grave, hein, on ne devrait pas dire des choses comme ça, mais c'est vraiment une vraie passion, quoi. Ça m'est déjà arrivé de penser ça. Enfin, bon, en même temps, je sais bien que les autres, ça n'a rien à voir avec moi, mais je suis toujours privé quand je ne peux pas voler. Et même en ce moment, avec mon mémoire là, universitaire, bah, je suis frustré, quoi. Bon, c'est pour un plus, hein, le mémoire, ça me permettra peut-être d'avoir un diplôme, donc professionnellement c'est important. Du coup, je pourrais peut-être avoir de l'argent et j'aurais peut-être les moyens de voler. Enfin, donc. Mais j'ai une hantise, c'est de vieillir et de plus pouvoir voler. C'est une hantise. Enfin, c'est pour ça que je me dis, je me mettrais peut-être à la montgolfière, parce que la montgolfière, c'est plus facile, hein. T'as qu'à la gonfler avec du gaz, tu gonfles ça, hop, tu te mets dedans, ça monte. C'est pas compliqué, une montgolfière. Tu pars le matin quand il n'y a pas de vent, donc tu choisis un champ, puis si tu ne peux pas te poser, tu remets du gaz, hop, tu remontes. Pas comme le Delta, tu montes quand tu veux. Enfin, c'est cher, quoi. Bon, voilà, peut-être qu'un jour, peut-être, je sais pas, hein, mais quand ça sera fini, ça sera fini. Voilà. Mais je pense que je serai capable quand même de faire le deuil de Delta. Un jour, je dirais c'est fini. Voilà. Je peux plus courir pour décoller, j'ai mal aux jambes, je suis trop gros, ça va pas, ça part plus, je me mets en danger, j'ai plus la force. Bon, ben, je crois que je serai capable de dire voilà, j'arrête, quoi, terminé. Mais j'espérerais pouvoir, par exemple, faire de la montgolfière quand même. Ben, sinon, je sais pas, mais je pense qu'on se remet de tout, hein, dans la vie. On peut tout. J'en aurais profité quand même. Ça fait 20. 86, oui, j'ai mon brevet en 86, 7, donc ça va faire 20 ans là. Ça va faire 20 ans que je vole en moyenne 25 vols par an. Donc j'ai peut-être fait, je sais pas moi, combien de vols, hein, 500 vols au moins, hein, plus même. Parce qu'il y a eu des saisons où j'en ai fait 30, 35. Hein. Donc. Bon, c'est vrai qu'en vieillissant, on se dit, est-ce qu'on aura toujours la force? Il faut courir, hein. Il faut vraiment bien courir au décollage. Tout le reste est assez facile, mais enfin, la course du décollage, elle est technique. Hein. Enfin, je peux dire que je fais du ski, hein, pas mal. Bah, ça procure pas les mêmes joies, mais enfin, presque. Ben, cette année, j'ai fait du ski dans de la profonde pour la première fois, dans une neige profonde, fraîche profonde, 40 centimètres, 30 centimètres, 35 centimètres de neige. J'avais jamais skié dans de la neige. Ça m'a procuré une joie immense, donc pratiquement comparable, hein, pratiquement comparable. Parce que j'avais réussi à skier sans trop tomber. Bon, puis quand on tombe, c'est pas méchant, c'est pas mal, hein, enfin. Bon, mais pratiquement, j'arrivais à skier pour la première fois sans tomber dans de la neige profonde. Alors, je ne pensais jamais que ça m'arriverait. Et c'est très agréable. Donc, ça me fait penser que ben, le jour où je ne pourrais plus faire de delta, peut-être que je pourrais faire autre chose. Hein. Voilà.
Quels sont les sites que tu as trouvés les plus beaux?
Les Alpes. Allez, là où j'ai fait les plus grands crosses. Bon, les plus beaux, c'est Seine-les-Alpes, mais enfin, c'est tellement facile qu'il n'y a pas de mérite, quoi. Enfin, mais enfin, c'est beau quand même. Là, tu décolles, 2 jours sur 3, c'est pareil, hein. Tu décolles, tu montes à 3000, 3005, et puis tu pars, tu fais 50-100 km, tu as des montagnes partout, tu suis une ligne droite, ça monte partout. Où tu fais 50 km dans un sens, tu reviens, ça fait 100 km, et le lendemain, tu peux pratiquement faire pareil, et ainsi de suite, tous les jours, pendant tout le mois d'août. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais enfin, presque. Hein. Donc c'est beau, c'est magnifique, hein, c'est extraordinaire, mais c'est tellement facile que finalement, ça perd un peu de son charme. Alors que quand je suis allé plutôt du côté de la Ragne, avec dans ses stages de l'ancien champion de France, hein. Il a été plusieurs fois champion de France, champion d'Europe et tout ça. Lui, il t'emmène, tu le suis, hein. Tu le suis si tu peux. Et on est toujours 3-4 en stage avec lui. Et il te fait faire des distances beaucoup plus grandes. Et c'est pas toujours sur le même trajet comme à Seine-les-Alpes. C'est n'importe où, tu peux partir dans n'importe quel sens en fonction d'un peu des orientations du vent. Tu peux partir vers le sud, tu peux partir vers le nord, tu peux partir vers l'est, vers le nord-est. Ça dépend vraiment. Ce qui fait que tu peux à 380 degrés autour de ton décollage faire 50 km dans un sens, 50 km dans l'autre. Hein. Dans n'importe quelle direction en fonction des conditions. Ce qui ouvre beaucoup plus le champ. Si tu veux. Je ne dis pas que c'est plus beau, c'est plus varié. Parce que un jour tu pars, tu survoleras Sisteron, qui est situé à 30-40 km vers le sud en fait. Hein. Et tu reviendras de Sisteron posé. Le lendemain, tu vas décoller, tu partiras vers Beaumont, Serres, Aspres, Veynes-des-Vauluis, qui est situé vers le nord, quoi. Donc c'est tout à fait autre chose. Quoi. Rien n'est gagné d'avance. T'as pas tes endroits comme à Seine-les-Alpes où tu es sûr que tu as une pompe. De toute façon, elle est toujours là tous les jours. Elle t'attend. Elle va t'emmener à 3500 mètres. Après, tu vas redescendre un peu plus loin. Tu trouveras un nouveau thermique, etc. Là, non. Là, rien n'est balisé. Enfin, La science du vol t'apprend quand même que, à trouver hein, les thermiques. Donc la beauté, il faut nuancer, si tu veux. Hein. Parce que moi, je me suis vu à la Ragne faire un décollage difficile et puis trouver un tout petit thermique qui m'a remonté très bas et qui m'a emmené à 3000, 3500 mètres à partir, mais pendant 25-30 minutes à tourner dans un petit thermique en biais, parce qu'il était emmené par le vent, il n'est pas toujours vertical, et à faire... C'est absolument fabuleux, quoi. C'est absolument fabuleux. C'est indicible, c'est des joies phénoménales, quoi. C'est phénoménal. Donc la beauté, elle est alliée quand même à la technique, au plaisir de remonter, je pense quand même. Parce que, au plaisir de remonter, alors que normalement, c'est pas si facile que ça de remonter. Et ben toi, tu as trouvé un truc et tu arrives à remonter. Alors tout est plus beau, tu comprends? Tu regardes tout alentour, tu vois les autres qui vont se poser, forcément tout est plus beau. Le plus beau vol que j'ai fait, c'est à la Ragne, avec un... Je décolle, je prends un thermique qui m'amène à 3600 mètres, je lui dis en radio que j'ai un thermique qui m'emmène à 3600 mètres, tout le monde décolle, les autres décollent après moi, et à ce moment-là, il nous avait dit de passer la montagne de Saint-Genis, d'aller vers au jour, et puis de partir vers le pic de Bure. Bon, ça, c'est une distance quand même de 50 bornes. Hein. Mais m'entendant lui dire que je suis à 3500 mètres, il me dit, à ce moment-là, tu passes directement Saint-Genis, tu t'occupes pas de Saint-Genis, tu le survoles et tu vas directement vers au jour, donc pratiquement 20 bornes d'un coup, quoi. Je dis d'accord, je tombe en panne de radio parce que j'avais mal chargé ma radio, les piles n'étaient pas chargées. Et en fait, je tombe en panne de radio. Voilà, je me retrouve donc coupé du groupe. Tout seul, à 3500 mètres, vers au jour. J'arrive à la montagne d'au jour, parce qu'il nous avait montré avant sur la carte et tout. Donc je vois les copains qui arrivent, donc le groupe qui tourne au-dessus d'au jour, tout ça. Et puis ils partent, beaucoup plus rapidement que moi. Je me dis, je suis le vilain petit canard. Bon, ben, de toute façon, je suis la cinquième roue du carrosse. Je suis lent, j'ai une aile qui est lente, je ne suis pas performant. Puis je suis vieux, ils sont jeunes. Enfin bon, bref. Tant pis, je les perds, je les reverrai peut-être pas. Tant pis. Je prends mon petit truc tranquillement, je tourne, je trouve un thermique au-dessus de la montagne d'Aujour, qui me remonte à 3600 mètres. Alors il avait dit, après Aujour, vous allez vers Houle, la montagne de Houle. Bon, je regarde où elle est, je pique vers Houle. Bon, je vois mes copains loin, tout ça. Bon, je dis, ça y est, c'est foutu, j'arriverai jamais à les rattraper, tant pis. Bon, tant pis, je me prends mon petit vol, j'arrive à Houle, je remonte à 3500 mètres au-dessus de Houle. Ah bon, après il avait dit d'aller vers le pic de Bure en prenant vers l'est pour contourner par un épaulement de la montagne, ne pas attaquer le pic de Bure de face. Je vais vers un épaulement de la montagne, puis je vois des tas de deltas en bas, dans la vallée. 5 ou 6 deltas en train de se poser. Ah, je dis, ouais, j'ai vachement de monde ici, c'est formidable. Moi, mes copains, je pense qu'ils sont loin, hein, puisque je ne les vois plus. Ils ont dû prendre au moins 30 km d'avance sur moi, mais tant pis. Je me débrouille, je veux mon petit épaulement, je remonte le pic de Bure, je prends 3900 mètres au-dessus du pic de Bure, c'était fabuleux, tout ça, j'étais seul. Oh, je décide quand même de rentrer, je ne vois plus personne, tous les deltas que j'avais vus se poser ont replié. Bon, je rentre. Je repique vers la Grande Céouse, je rate complètement Houle. La Grande Céouse, c'est une montagne en fer à cheval. Bon, ça prend pas, je reprends un peu, on remonte à 2003, 2005. Et puis je perdais, oh, je dis je n'arriverai pas à la Ragne. Le retour était trop long. Bon, je regarde, puis alors quand on descend comme ça, on voit, c'est plus pareil, hein, tu vois pas les. Les montagnes, tu les vois plus toutes petites comme des brioches ou des pains longs ou des baguettes ou des madeleines. Hein. Parce que quand tu es haut, tu sais, tu vois plus rien. Hein. Les montagnes ont l'air d'être des gâteaux, comme ça, bien roussis par le soleil, comme des baguettes bien cuites. Hein. Tu les prendrais presque avec deux doigts tellement tu es haut. Là, ça descend. Hein. Ça descend, aïe, 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 je passe sous les sommets. Dire que les sommets, j'étais plus au-dessus, mais les sommets... Ils étaient au-dessus. Et moi, j'étais dans la vallée. Bon, bah, il n'y a plus qu'une chose à faire. Hein. C'est prier pour trouver un thermique ou prier pour trouver un terrain. Bon. Je dis, je vais plutôt jouer la carte du terrain parce que le thermique, là, je ne le trouverai plus. Là, j'étais crevé. Ça faisait 4 heures que je volais. J'avais déjà fait presque 100 bornes. Bon, j'avais fait un beau vol. Hein. Bon, je vois vaguement un petit champ, là, en contrepente. Bon, il était vent arrière. Mais enfin, bon, je me dis, je vais me poser vent arrière. Normalement, il faut se poser vent de face. Hein. Enfin. J'arrive, je fais une belle manœuvre, puis dans ces cas-là, je roule sur les roulettes pour ne pas m'emmerder. Donc je roule sur les roulettes, mais bon, tout est bien, me voilà arrivé. Mais où suis-je? J'étais près d'un cimetière. Bon, c'est déjà une chose. Alors après un cimetière, je cherche le nom du village, je vais voir un fermier, je me fais accueillir par son chien. En fait, c'était pas un fermier, enfin c'était une maison isolée. Bon, je lui dis, est-ce que vous pouvez me dire le nom du village? Elle me dit, le sexe. Bon, est-ce que c'est une blague? Elle me dit, non, non, c'est le sexe. Bon. Et ça s'écrit S-A-I-X. Bon, d'accord. Alors, je vais au cimetière du sexe, si j'ose dire, retrouver mon deltaplane, et j'appelle mes copains avec mon portable. Je leur dis, écoutez, vous n'allez pas me croire, mais je me suis posé au cimetière du sexe. Elle me dit, non, mais tu te fous de notre poire, au cimetière du sexe. Et en fait, je leur dis, regardez sur la carte, ça s'écrit S-A-I-X, c'est situé à 20 km de la Rade. J'étais presque arrivé. Alors en fait, j'apprends au téléphone que aucun d'eux n'avait réussi à rejoindre le pic de Bure, que tous ceux que j'avais vus bien avant se poser entre Oul et Bure, bah, c'était eux. Et moi, je pensais jamais que c'était eux, je pensais que c'était d'autres deltistes. Ils avaient tous été au tapis, en fait. Ils n'avaient pas réussi à raccrocher un thermique. Ils avaient été jusque Oul. Et après Oul, tous au tapis, n'ont pas réussi à raccrocher le petit épaulement de Bure. Et en fait, si le prof, lui, avait réussi. J'avais vu un delta, mais je n'avais pas reconnu que c'était le sien. Puis comme j'avais plus de radio, lui, il me tournait autour en sifflant tant qu'il pouvait, des grands coups de sifflement, mais je n'ai pas compris pourquoi il sifflait. J'ai même pas réalisé que c'était mon prof. Enfin, on est dans un état de stress, hein, quand même, quand on vole. Et donc, en fait, ils sont venus me chercher en camionnette parce qu'eux, ils avaient largement eu le temps de replier leurs ailes, de se faire récupérer par leur femme ou leur copine, etc. Et ils sont venus me chercher au cimetière du sexe. Alors, ils étaient très, à la fois admiratifs, parce que le début de la semaine, c'était pas passé très bien pour moi. J'avais fait pas mal de tapis alors qu'eux avaient bien volé. Enfin, ils n'avaient jamais fait un si beau vol que ça. Et ils étaient un peu ironiques avec moi, parce que les soirs, ils me disaient, alors, t'as encore été au tapis. Oh, ben, c'est large, hein, maintenant, il va falloir que t'ailles en maison de retraite, mon pauvre, c'est fini pour toi, le delta. Et le jour-là, ils étaient vraiment envieux, quoi, dans le bon sens du mot, quoi. Salaud, oh là là, c'est dégueulasse, comment on peut voler comme ça, à cet âge-là, avec un vieux matériel, enfin, bon. Enfin, ils étaient quand même admiratifs. Hein. Et ce soir-là, c'était la fin du stage, c'était le vendredi, on a fait un repas, il y avait... J'aurais payé un coup. Et c'est vrai que m'a dit non, hein, il te regardait avec respect. Alors j'étais fier. Moi, c'est mon plus beau souvenir en Delta. Hein, parce qu'une semaine qui commence mal, des petits vols un peu minables, des mecs beaucoup plus jeunes que toi avec du matériel top qui te, bon, gentiment te donnent un peu, te disent quand même que, en blaguant, quoi, que t'es bon à pas mettre en maison de retraite, mais presque. Et puis, ça se termine en apothéose. Bon, j'avoue que j'étais content. Puis de leur avoir un peu d'un mille-pions. Moi, j'aurais jamais pensé. Moi, j'ai pas imaginé que c'était eux qui étaient au tapis, quoi. Alors là, pas un seul instant. Mais alors, pas un seul instant. Je les imaginais beaucoup plus loin, et puis revenir faire un grand circuit trois fois plus long, quoi. Alors, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai su que c'était eux, quoi. Ah, puis il y en a un qui était très sympa, qui m'a dit, ah ouais, je t'ai vu sur le pic de Bure. Ouais, j'ai vu quand t'as recommencé ta transition vers le retour. Oh là là, t'étais au moins 4000. Hein. Ouais. Et là, il y avait du respect, tu vois, presque de l'admiration. Ah ben, tu sais, ça fait quand même plaisir. Voilà mon plus beau, je dis pas souvenir au niveau de la beauté, c'était beau, hein, remarque. Enfin, quand t'es très stressé, que t'es tout seul, que t'as plus de radio, que t'es persuadé que tout le monde t'a largué, qu'ils sont tous meilleurs que toi, finalement, tu sais, t'apprécies pas la beauté. T'es dans ton... T'es technique, hein, t'es dans ta technique. Il faut réussir. Ouais. Au moins essayer de voler, quoi. Et puis alors après, quand tu découvres que c'est toi qui as fait le plus beau parcours, alors là, c'est le bonheur, quoi. Enfin, c'est un bonheur légitime, hein, moi. Il s'était quand même foutu de moi pendant toute la semaine. Donc voilà, quoi, mon plus beau souvenir, mais ça ne serait pas un souvenir de beauté, parce que je te dis, j'étais trop stressé. Et puis ça fait peur, hein, parce que, tu sais, c'était sur Mars, hein, le prof, il n'est plus là. Hein. Le prof, t'es plein, le prof, t'as plus de radio, hein. T'as plus de conseils, hein. T'es tout seul. Donc il faut appliquer le plan. Il t'a dit, il faut faire ceci, Saint-Genis, Aujou, Hull, tu le prends par l'est, tu remontes sur Bure. Eh ben, je l'ai fait. Et puis ça a marché. Alors ça, c'est fabuleux, ça, c'est fabuleux. Je crois que même si je devais arrêter le delta maintenant, que je me fasse mal ou que j'ai de l'arthrose, des rhumatismes, je sais pas, tout ce que tu veux, eh ben, j'oublierai jamais ces vols, quoi. C'est des vols, si tu veux, il y a, dans les 5, 6, 700 vols que j'ai faits, il y en a peut-être 10 comme ça, quoi. Et puis 10 ou 20, hein, quand même. Et puis il y en a peut-être 50 ou 100, de toute façon, dont je me souviens. Et ben ça, ça m'illuminerait ma vieillesse, tu vois. Ça m'illuminera ma vieillesse, si j'ai la chance, si j'ai la chance de vieillir et de pas mourir trop jeune. Mais c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Ben merci, hein.
De rien.